Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les critiques que ça chatouille et que ça gratouille. J'ai nommé Charlotte Klipinska de Vanity Fair, Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles, Eric Neuf du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession. On parle de The Square, de Détroit, de l'atelier de tous les rêves du monde de coexister, de Knock et si on a le temps du documentaire d'Amos Gitai à l'ouest du Jourdain dans le courrier de la semaine Coup de foudre. Xavier, des auditeurs pour le Blade Runner, si rudement attaqué au masque et la plume, Tristan de Strasbourg nous écrit « C'est avec une infinie tristesse que je t'annonce mon divorce d'avec Xavier Le Herpeur. Nous nous sommes pourtant tant aimés, nous écoutions Mylène Farmer en regardant Bob l'éponge. mais avec Blade Runner 2049, tout s'effondre. J'ai trouvé ce film admirable. Denis Villeneuve réussit la prouesse de livrer une vraie suite qui respecte la diégèse du premier film sans en être une copie conforme et pâle. François de Besançon, déçu, très déçu de l'accueil réservé par le masque au magnifique Blade Runner 49. J'adore le premier que je regarde religieusement plusieurs fois par an et attendais avec impatience, mais aussi crainte, ce nouveau film. Et j'ai été comblé. Pour Vincent Tessert de Grenoble, c'est un film contemplatif où la profondeur dans l'histoire du genre est admirable. Thierry Magimel de Périgueux, un magnifique Blade Runner, véritable choc visuel, remarquable voyage crépusculaire et glacial dans un monde futuriste, magnifié par une image et des décors sublimes, et même Thierry Magimel qui en appelle à Orson Welles et à Fellini. Pour Frédéric Sauvage de Lyon, avec Blade Runner, la magie du cinéma m'a tué. Alain Brogui a trouvé navrante la critique du Par le masque du nouveau film de Villeneuve. Il serait sans doute très amusant de ressortir vos avis du premier opus de Ridley Scott en 82. Aujourd'hui, c'est un classique. À l'époque, c'était un film vulgaire, tape à l'œil, pompeux. Pour Isabelle Chu de Princeton aux États-Unis, c'est un film qui peut paraître froid et austère, mais il renvoie à nos peurs d'un monde post-changement climatique et post-atomique, avec des scènes hallucinantes de poésie. Pourquoi tu rigoles? C'est bête, hein?
Parce que tu me regardes, que ça me rappelle ma prof de maths quand elle me rendait ma copie. Bon, alors le Herpeur, c'est désespérant.
Régis Nicole de Saint-Jean-de-Bray remercie Pierre Murat d'avoir sauvé le film dans cette émission qui mériterait de s'appeler « Le goudron et la plume ». Et l'auteur salue un remarquable scénario qui permet d'espérer une suite vertigineuse. Alors, il y a quelques bémols, mais pas beaucoup. Il y a Julien Demangeat de Bruxelles qui parle d'un film d'anticipation à la métaphore grasse comme un fish and chips, jusqu'au final d'une niaiserie indicible. Ou encore Sébastien Vallon, fidèle auditeur qui nous écoute depuis Singapour et qui a été indigné par le placement de produits dans Blade Runner, Johnny Walker, Sony, Peugeot en permanence à l'écran. Non, je ne paie pas une place de cinéma pour avoir de la publicité incrustée dans le film. Allez, en revanche, grosse colère contre ce film que tu as beaucoup aimé, Xavier, de Claire Denis, Soleil intérieur. Ce film, nous dit Nathalie, est nul à chier. C'est malhonnête, j'ai perdu mon temps et mon argent. Jacques Rebaud explique que pour la troisième fois de notre vie de cinéphile, nous avons quitté la séance au bout d'une heure. Pas de soleil, pas d'intérieur, et c'est pas beau. Rien. C'est vraiment pas clair, Denis. Pierre Bénard a éprouvé une belle colère intérieure devant tant de nullité. C'est pitoyable que tant d'acteurs se plient à ce genre d'exercice totalement vain. Christine Fink, quel film horrible, tout est laid, pervers, glauque, sombre. Comme c'est triste de voir les hommes et les femmes sous cet angle. Ou encore Damien Fabre qui suggère que quiconque a déjà eu la malchance d'avoir entre les mains un roman de Christine Angot, qui est la co-scénariste, pourra reconnaître facilement son style plaintif. Ou encore Alain Gascon de Paris, qui espère que ce film sera le dernier Angot à Paris. Et pour finir, Jean-Jacques Corio d'Aix-en-Provence. Ce qu'il y a de surprenant dans ce film, c'est que Juliette Binoche arrive à faire une prestation extraordinaire dans un film qui est d'une grande médiocrité. Voilà. Rien à ajouter, non, les uns ou les autres. Non, Jean-Marc, je sens que tu n'es pas très content, mais c'est pas grave. C'est le jeu de l'émission. Et la Palme d'Or est attribuée au Suédois Ruben Östlund pour The Square avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary et d'autres. Une palme qui, à Cannes, a rendu Eric très, très heureux. Je me souviens encore de ton papier. Mais pas tout le monde, parce qu'au même moment, Libé parlait de farce lourdingue, comme quoi c'était partagé, les avis sur ce film. Et The Square, c'est le titre donc de l'installation postmoderne que prépare Christian, père divorcé de deux petites filles et conservateur du musée d'art contemporain, alors que Christian soutient les grandes causes humanitaires et que son installation, qui est assez sommaire, hein, c'est un carré dessiné au sol, doit inciter les visiteurs à la tolérance, eh bien, il se fait voler son téléphone et son portefeuille par des pickpockets, ce qui va évidemment le mettre très vite en porte-à-faux avec les belles idées qu'il professe. Quand il a remis la palme, le président Almodovar a parlé d'un film qui osait parler de la dictature du politiquement correct. C'est pour ça que tu l'as tant aimé, Eric, non ?
Entre autres, oui, mais c'est surtout parce que c'est un film que si on aime les spectacles de Gaspard Proust, on sera ravi parce que c'est le même
genre du monde. C'est pas 2h30, hein, Gaspard Proust. Hein,
oui, mais c'est pratiquement le même état d'esprit, c'est dévastateur, c'est une drôlerie au Karcher, et c'est beaucoup plus sérieux que ça n'en a l'air. Ça dénonce tous les travers de l'époque, avec une jubilation et un esthétisme qui font vraiment plaisir. Il y a des scènes qui sont vraiment inoubliables sur la guerre des sexes, la scène du préservatif utilisé. On a rarement décrit autant la méfiance qui règne entre les hommes et les femmes, même après une nuit d'amour.
Tu peux la raconter, hein.
Non, ça gâche un peu.
Une nuit d'amour, une nuit de sexe.
Oui, une nuit de sexe, oui, tu as raison. Oui, oui. Et suivi.
Il confond un peu les deux, hein. Il y a un petit problème là-dessus.
Les deux ne sont pas incompatibles de temps en temps.
Ne me cite pas la scène du dîner de charité, quand même.
Si, j'adore cette scène du dîner de charité parce que on n'a jamais vu à ce point ce que c'était que la lâcheté des hommes aujourd'hui, sauf peut-être récemment dans l'émission de Ruquier quand Christine Angot a réussi à faire pleurer une victime d'agression sexuelle et que tous les hommes autour de la table, au lieu de réagir, lever et de lui dire « Madame, on s'en va, vous n'avez pas à supporter ça », tous ces bobos de merde baissaient les yeux sur leur table et n'ont rien dit et c'était scandaleux. Et le film dénonce toutes ces attitudes, dénonce les travers de l'art contemporain. Snowtherapy était déjà un film d'une violence, d'un pessimisme. C'est un vrai film de droite, c'est pour ça qu'il y a un tas de gens qui ne l'aiment pas. Il n'y a aucune illusion sur la nature humaine. C'est un film, il ne reste rien à la fin. Il reste un type qui cherche des papiers dans des sacs poubelles sous la pluie, en smoking dégoûtant. Il y a deux enfants sur la banquette arrière qui se demandent ce qui va leur arriver avec l'avenir qu'on leur laisse. Et ce film est vraiment drôle, méchant, philosophique et très très beau.
Xavier.
Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec Eric Niort. Non, le film est une merde sans nom, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un vrai film de droite. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, et c'est plutôt souhaitable d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un film qui se contente, mais tout le temps, de regarder de loin, de ne jamais rentrer dans la masse, de ne jamais prendre une once de responsabilité dans tout ça. C'est toujours les autres, c'est jamais lui. Le réalisateur nous donne des leçons, nous juge, nous manipule, articule, s'attire des dénonciations, mais qui sont d'un autre âge, qui ne sont pas intelligentes, qui sont toutes faites. Alors, c'est peut-être du politiquement correct, mais c'est vraiment du prêt-à-penser de bas étage. Ça n'a aucun intérêt. C'est la dénonciation de l'art contemporain et d'une bêtise sans nom, un carré posé par terre, et les bobos qui vont s'enthousiasmer là-dessus. Ça fait longtemps que l'art contemporain, ça n'est pas ça, que c'est beaucoup plus intelligent. C'est l'idée que s'en font les gens qui ne vont jamais voir de l'art contemporain dans les musées. Mais c'est tellement rassurant de penser, et que quelqu'un pense à votre place, puisque c'est quand même le rôle du metteur en scène, et que c'est tellement facile. Lui aussi, il trouve que c'est à chier. Donc hop, plus d'art contemporain. Mon Dieu, nous sommes tous de gauche, et au moment où il nous arrive un petit problème, nous sommes tous de droite, c'est-à-dire que nous sommes tous repliés sur nos petites valeurs et sur nos défenses, nos petits bourgeois. Mais où il est ce type, d'où il vient pour se permettre de nous donner des leçons aussi stupides, aussi stériles, aussi inintéressantes que possible. Il faut qu'il aille dans ce monde qu'il est en train de juger. Il faut qu'il le jauge.
Xavier, il y est.
Mais
cette exposition dont tu parles
est une vraie installation
de Ruben Östlund.
Mais
quand
pas
même.
Du tout. Il est en train de nous regarder. Il nous dit que ces gens-là touchent des salaires fictifs qui n'ont aucun intérêt, qui sont indécents. Mais il a touché combien pour faire le film? Non, moi je suis désolé. Il y a un moment où j'en ai marre de ces cinéastes moralisateurs qui manipulent une sorte de réalité pour nous faire croire
que justement c'en est une, que ça ne l'est jamais, et ça n'a aucun intérêt, c'est stérile, c'est donneur de leçons, ça nous donne des petits coups de trique sur les doigts, mais encore une fois, où se situe-t-il
Charlotte.
À part le jugement ?
Mais je ne sais pas ce qu'avait Xavier quand il a vu le film, parce que le réalisateur ne dénonce pas cette installation donc, qui s'appelle The Square, ce fameux carré dans lequel... Quand les personnes sont dedans, elles sont appelées à être bienveillantes, altruistes et égaux les uns les autres. C'est une vraie installation qu'a fait Ruben Östlund il y a 2 ans dans un musée dans le sud de la Suède. Et ça a eu un tel succès qu'ils l'ont déplacé par la suite dans une petite ville. L'installation est toujours là et c'est un espace où des gens se sont demandés en mariage, où il y a eu des
Charlotte,
concerts et tout ça.
Charlotte, il n'y a pas que le carré, t'es bien d'accord que
l'empilement de pierres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu dis, il se fout de la gueule de l'art contemporain.
Petite parenthèse, c'est une anecdote peut-être, mais cette semaine. Il y a une grande enquête dans Valeurs Actuelles pour dénoncer l'art contemporain et illustrer l'enquête uniquement avec les installations du film. C'est-à-dire qu'ils en font évidemment le matériel.
Mais Charlotte, il y a un moment, il y a une pyramide de pierre que renverse bien évidemment un homme de ménage qui est trop bête pour avoir reconnu quand même une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il méprise tout le monde quand même.
Alors, mais moi, je trouve que la charge, elle est assez féroce. Là, Xavier, il y voit le prisme d'une dénonciation de l'art contemporain. Moi, je trouve que le film va bien au-delà de ça et qui dénonce effectivement une espèce de bourgeoisie bien pensante qui a beaucoup de mal à mettre en accord sa vie quotidienne et ses principes et ses valeurs que la morale nous impose. Et effectivement, ça va pas être facile pour ce Christian de bien se comporter quand on lui a volé son portable, tout en prônant effectivement ses valeurs bien pensantes. Moi, je voudrais dire un mot de la mise.
Tu crois vraiment à cette histoire ?
Oui, moi j'ai été vraiment embarquée et aussi grâce à la mise en scène que je trouve assez peut-être maligne, un peu retorse, mais extrêmement efficace. C'est-à-dire que l'humour de certaines scènes vient du hors-champ, vient de l'arrière-plan. Je trouve que c'est par la durée des séquences que Ruben Östlund parvient à vraiment distiller du malaise, de l'effroi, de la stupéfaction et qu'on est un peu saisi quoi, en tant que spectateur. Par ailleurs, le film est quand même extrêmement bien joué. Cet acteur, on le connaît assez peu quand même, Claes Bang et Elisabeth Moss dans un rôle totalement secondaire. Elle est absolument géniale en jeune journaliste un brin fêlé. J'ai revu le film après Cannes, où souvent dans l'hystérie cannoise, un film efface l'autre, on peut être déçu ou trop enthousiaste. Là, je l'ai revu au calme à Paris.
Je rappelle qu'à Cannes, évidemment, c'est la palme espérée par certains festivaliers pour le film de Campillo, qui a aussi un peu démonétisé le film The Square.
Enfin, il y avait 10 films à Cannes qui méritaient davantage la palme d'or que celui-là.
Jean-Marc,
mais c'est pas la question.
Oui, c'est pas la question. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai pris soin de revoir le film que j'aime toujours pas du tout. Et pour rebondir sur la formule d'Éric, c'est vrai que c'est un film de droite, mais c'est un film de droite au fond assez centriste et assez bien pensant lui-même, qui prend soin de s'affliger, de dénoncer les inégalités et qui au fond est presque un peu larmoyant dans sa dernière partie. Il y a un côté un petit peu Haneke dans son organisation, dans son regard.
Plus drôle qu'Haneke.
Mais dans une version débraillée et qui se veut un peu sympathique, avec un trait satirique que moi je trouve extrêmement lourd. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit l'œuvre appelée The Square, où on lit qu'à l'intérieur, tout le monde est à égalité, il y a un raccord sur un SDF par terre. Et tout le film est comme ça, fait de raccords extrêmement signifiants. Il y a une scène qui est le grand morceau de bravoure qui vise vraiment à faire grand moment de cinéma, qui est ce dîner où un performeur va arriver en faisant le singe, et peu à peu, alors que tout le monde s'en amuse, il va devenir violent et inquiéter tous les convives. La scène est assez réussie, effectivement, grâce à cette dilatation. Sauf que sa résolution, moi, je la trouve accablante. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais pas raconter ce qui se passe, mais tout à coup, alors que la scène crée beaucoup d'équivoques, ça se termine sur une note totalement univoque, une espèce de dénonciation ultra lourdingue, et tout le trouble qui avait été généré par une certaine habileté de cinéma qui est indéniable est totalement retiré, reprise par un effet de discours pachydermique. Moi, je trouve le film effectivement très très lourdingue.
The Square, c'est donc le film de Ruben Östlund. Des réactions sur ce film, non. Détroit, le film lui aussi assez long, 2h20. Le film inflammable au sens propre de Catherine Bigelow avec John Boyega, Jack Raynor, Will Poulter, Algie Smith et beaucoup, beaucoup d'autres. La réalisatrice de Des Mineurs et de Zero Dark Thirty, qui était sur la traque de Ben Laden, raconte donc dans ce film les émeutes terribles et raciales de juillet 1967 et l'insurrection des quartiers noirs qui ont mis la ville de Détroit en feu. Pour raconter cette tragédie, dont je rappelle quand même le bilan, après l'intervention de l'armée, c'est quand même 43 morts et plus de 1000 blessés. Bigelow s'attache à un groupe de jeunes musiciens noirs réfugiés dans une chambre de motel et que la police va torturés. Et au matin, on va compter 3 morts. Le film, je trouve qu'il y a des scènes qui sont même parfois à la limite du soutenable, a reçu un formidable et bien légitime accueil critique aux États-Unis, mais a été entaché par cette polémique qu'on ne peut pas ne pas rappeler, c'est-à-dire que il a été reproché à une cinéaste blanche de s'arroger un sujet qui aurait dû être traité par un réalisateur noir, et ça a évidemment beaucoup nuit à la fréquentation des salles qui programmaient ce Détroit. Dites-moi ce que vous en pensez de Détroit, Jean-Marc.
Moi, j'étais assez déçu et embarrassé.
Déçu,
vraiment déçu, mais à la hauteur de mon attente, parce que j'aime énormément Catherine Bigelow, que c'est vraiment une très grande cinéaste. Même ses films plus légers comme Point Break, je trouve ça magnifique. Et puis les deux derniers que tu as cités, Des mineurs et Zero Dark Thirty, sont pour moi vraiment de très très grands films. Et c'est pour moi le film raté d'une très grande cinéaste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments de pure mise en scène éblouissant, et notamment, je dirais que les 20 premières minutes de mise en place, ce qu'elle fait en termes de reconstitution d'époque, c'est incroyablement incarné, vivant, on est là, elle a vraiment pas son pareil aussi pour filmer du mouvement, de l'action, mais ensuite, moi, je pense que le film s'englue dans son projet qui est de faire ressentir la violence subie par les victimes de ces abus policiers, et plutôt que de filmer le mécanisme, c'est en restituant, du point de vue de la sensation, cette violence, et en faisant un spectacle qu'elle regarde, à mon sens, avec beaucoup de complaisance, qu'elle va produire un effet d'électrochoc.
De complaisance?
Ah, moi, je trouve qu'à un moment donné, la mise en scène épouse quelque chose de la cruauté que les forces de police infligent à leurs victimes. Et je trouve que, au fond, on sent qu'en même temps, c'est vraiment pour ça qu'elle fait le film, pour essayer de trouver cette vérité-là dans quelque chose pour moi, qui est naïvement performatif. Et ensuite, dans la dernière partie du film, qui est le procès où se met en place une terrible injustice, je trouve que là, on voit que ça ne l'intéresse plus, qu'elle filme ça vraiment complètement par-dessus la jambe, que c'est presque un long épilogue de 50 minutes où elle n'est plus là. Et quand elle est là, je pense qu'elle n'est pas à la bonne distance, ce qui fait que pour moi, le film n'est pas satisfaisant.
Charlotte.
Mais je ne comprends pas du tout ce que dit Jean-Marc, parce que...
Mais moi non plus, je te rassure.
Moi, je n'ai pas eu de plaisir à voir le film. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'avais aucun sadisme à voir ces maltraitances. Au contraire, je ressentais la peur.
Encore une fois, il y a des moments qui sont insoutenables.
Oui,
presque.
Mais parce que on est évidemment dans l'empathie avec ce qui arrive à ces pauvres garçons, mais on ressent la peur.
Non, mais j'ai pas dit qu'elle voulait produire du plaisir du tout. Hein. Elle veut évidemment provoquer de l'embarras, mais d'une manière
que je trouve naïve
ou de l'effroi, mais d'une manière qui me semble naïve, c'est-à-dire du côté de la reconstitution, alors que je pense qu'une plus grande abstraction aurait été plus du côté de l'entendement.
Eh ben, moi, je trouve pas du tout, c'est-à-dire que j'ai été vraiment complètement saisie sur mon fauteuil. Effectivement, on peut se dire, quel est l'intérêt aujourd'hui de restituer ces événements de conflits raciaux qui sont passés donc en 67, mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, évidemment qu'il faut rappeler ces faits-là qui s'inscrivent dans une longue chaîne de débordements et de conflits raciaux. Et elle le fait avec tellement d'engagement et de talent que je trouve ça assez fou. Alors, la mise en scène, tout est filmé à l'épaule, donc effectivement, la caméra à l'épaule, une espèce d'urgence.
Mais c'est ça qui fait aussi qu'on a le sentiment d'être dans cette ville qui brûle.
On est vraiment pris avec eux dans ce huis clos de cette nuit de terreur dans l'hôtel. Et je trouve que l'une des grandes idées aussi de Catherine Bigelow, c'est d'avoir pris un casting d'inconnus. C'est-à-dire, à aucun moment, on ne voit un acteur jouer à... On ne connaît pas ces acteurs-là. Ils sont très bons par ailleurs, mais du coup, ça démultiplie l'effet de miroir, l'effet du réel, parce que comme elle mixe aussi des images d'archives, et le mélange d'ailleurs est assez subtil et bien fait, moi, j'étais plus dans une fiction, quoi. Je vivais les choses au moment précis.
On fait passer la parole, sinon on ne va pas y arriver, Eric.
Oui, on y est, hein, c'est complètement vrai. C'est un choc. Elle est très très forte, parce que le début, c'est un film... on voit un tas de gens courir dans les rues, les émeutes partout, le Vietnam est dans la rue, c'est la guerre là, c'est terrible. Et tout d'un coup, des gens se retrouvent presque par hasard dans cet hôtel, surtout une troupe de musiciens qui devaient passer un genre d'audition au cours d'un spectacle qui est interrompu à cause des événements. Il y a aussi deux filles blanches qui se retrouvent là pour s'amuser, les pauvres, eh ben, elles vont pas tellement s'amuser. Et j'ai rarement ressenti physiquement ce que ça devait être d'être pris en otage, d'avoir un flingue sur la tempe, de trembler, de chialer, de faire dans son froc, parce qu'on se dit là je vais mourir, et c'est la première fois qu'au cinéma je ressens ça aussi intimement. Je sais pas comment elle a fait. C'est quelque chose où on se met vraiment pas du tout du côté des flics, mais du côté des...
Ah bah non.
Non, mais...
Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, là.
Non, mais on voit comment ça se passe, comment les malentendus peuvent s'enchaîner, comment l'horreur est exponentielle, comment les subordonnés d'un chef complètement taré peuvent...
Et la tension. Comment sur une seconde tout peut basculer.
Ah oui, c'est terriblement bien fait. Et toutes ces pauvres filles là qui sont là par hasard, le crétin qui a... faut dire, le type qui a déclenché tout ça est complètement débile. Un crétin qui s'amuse à tirer avec un pistolet d'alarme une nuit pareille, il cherche vraiment la bagarre et les problèmes. Et c'est vraiment un truc très très fort. Le procès à la fin, je ne sais pas pourquoi tu trouves ça plus faible, parce qu'on se dit mais c'est scandaleux que ces types-là ne soient pas condamnés. Et le seul petit reproche, c'est que le méchant a vraiment une trop sale gueule de psychopathe. Lui, on a envie de l'étrangler d'emblée, on se dit celui-là, il est capable de tout. Mais il y a une scène où il y a un terrible malentendu qui coupe vraiment le souffle, hein, c'est la terreur à l'état pur. Et cette fille, vraiment, elle est plus virile que Norman Mailer, que James Cameron, que Werner Herzog et tous ces types-là.
Xavier.
Oui, enfin, une femme n'a pas besoin d'être virile pour avoir du talent.
Pour ce genre de film, si.
Non, pas du tout. Il suffit d'avoir du talent, c'est tout. Non. Ça suffit amplement. Bon, mais la question, de toute façon, n'est pas là. Moi, je suis totalement d'accord avec ceux qui ont dit du bien du film. Je suis même d'accord avec Jean-Marc. Je pense que d'abord, l'ouverture est absolument magnifique, parce qu'elle reconstitue ce monde qui est en train de se fissurer, la banalisation de la ségrégation qu'on ne remet pas en question et que, effectivement, la guerre du Vietnam va faire exploser. C'est-à-dire, je trouve que cette tension qui naît et qui gronde, alors que jusque-là, tout le monde est un peu dans ses rangs. Les Noirs rasent les murs, les Blancs sont là. Je trouve qu'elle le reconstitue de façon absolument magistrale. Après, moi, ce que j'aime dans le film, c'est que on est du côté des Blancs quand même. Et c'est là où elle trouve sa légitimité, contrairement au procès d'intention qui lui a été fait aux États-Unis. Ce qui l'intéresse presque, c'est comment ces Blancs, effectivement, travaillent le pouvoir. Il y en a qui veulent justement prendre leur distance. Il y en a qui vont y accéder et qui vont s'en enivrer. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'elle est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle est, elle est du côté des victimes, mais l'empathie est immédiate. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment il y a un effet d'enchaînement. Ces mecs-là sont là, ils ont un pouvoir, ils sont en train de bloquer des gamins contre un mur. Les scènes sont absolument magistrales. La merveilleuse utilisation du hors-champ. J'aurais supplié pour qu'elle ouvre une porte ou une fenêtre. J'ai tout fait vraiment. Mais ce qui l'intéresse, c'est cette façon dont le raisonnement blanc, omnipotent, à qui on donne tous les pouvoirs à cette époque-là, est en train de débloquer, de délirer complètement le droit de vie et de mort. Et j'aime bien,
Mais c'est pour ça que je ne comprends pas le procès qui lui a été fait.
Mais c'est pour ça
qu'elle
parle au nom des Noirs, elle parle au nom des Blancs, et c'est pour ça que ça contamine la dernière
partie. Le procès qui lui a été fait aux États-Unis est stupide.
Et ce gamin qui joue le flic, qu'on connaît un peu dans quelques séries télé, il joue le Joker, par exemple, dans une série sur Batman, il est inquiétant parce qu'effectivement, c'est un gamin, il y a encore du lait qui lui sort du nez, et là, subitement, on lui donne un flingue, on lui donne un droit de vie et de mort, un droit d'émurge, et il ne sait pas quoi en faire, à part, effectivement, le prendre et exécuter des innocents. Moi, je trouve le film mais vertigineux, justement, à ce niveau-là.
C'est Catherine Bigelow, pas de réaction toujours sur ce film présenté. Toujours à Cannes, mais à la quinzaine des réalisateurs, il y avait L'Atelier, le film de Laurent Cantet.
Un certain regard, je crois, plutôt.
Un certain regard. Moi, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Une section parallèle de Cannes. Laurent Cantet, Palme d'Or, je vous le rappelle, pour Entre les Murs, film co-scénarisé, comme d'habitude d'ailleurs, par Robin Campillo, le cinéaste des 120 battements, avec Marina Foïs, un Mathieu Lucci qu'on ne connaissait pas, et des acteurs... pour la plupart non professionnels, enfin tous non professionnels. Et Marina Foïs, c'est Olivia, une romancière connue, parisienne, pleine de bonne volonté, de bonnes intentions, qui est chargée d'animer, ce que fait souvent Eric Nohoff à La Ciotat, un atelier d'écriture avec cette jeune en insertion, ce que tu fais de temps en temps.
Ah, je réinsère à mort.
Et l'objectif d'écrire un polar, parmi eux, donc Antoine, Mathieu Lucci. D'ailleurs, je dis Lucci, je ne sais pas si c'est Lucci ou Lucci. Vous savez, les autres, non ?
Je ne sais pas.
Bon,
mais
c'est pas grave.
On le saura un jour, parce qu'il y a un grand avenir.
Et un garçon taciturne, mouton noir du groupe, qui en pince pour les idées d'extrême droite. C'est évidemment les relations entre l'intello parisienne et le révolté à la dérive qui intéresse Cantet, dont l'atelier devient comme une sorte de laboratoire social dans la ville des anciens chantiers navals. Eric, ça t'a intéressé, ça ?
Pas du tout. Je m'en fous complètement de ces gens-là. Je vois pas ce qu'il veut faire, à part une pub Benetton, parce que c'est que des clichés. Il y a la blague,
Sauf qu'il montre la tension, contrairement à une pub Benetton
La prof, la romancière parisienne, toutes les catégories sont représentées, et évidemment, il y a le type blanc comme un cachet d'aspirine qui fait de la musculation. Alors lui, attention, c'est un facho. Alors on se demande ce que sent l'extrême droite, toute une partie du cinéma français ferait aujourd'hui. Alors c'est ils sont tous débiles mentaux, hein, plus ou moins.
Et, mais
moi je ne peux pas m'intéresser à des gens qui parlent faux, comme souvent dans le cinéma français, et qui ne savent même pas écrire, parce qu'à un moment donné, elle lit un cahier Claire Fontaine d'un des gamins. Elle s'extasie, mais alors c'est un truc, même le Goncourt n'en voudrait pas, hein. C'est, même aux éditions de Minuit, on ne le publierait pas. La romancière parisienne, alors c'est Marina Foïs, qui n'est pas mauvaise, mais alors, pour Cantet, les romancières parisiennes, elles fument tout le temps. C'est ça, ils sont un peu bizarres et incorrects. Et alors, le gars, là, le gamin, c'est pas le mouton noir, c'est le mouton blanc, lui. Et il regarde des vidéos à la Soral, il a un flingue, il y a une scène d'un ridicule absolu en pleine nuit, là, avec elle, qui tourne vraiment au guignol. Et moi, ça m'a rasé, même les scènes de plongeon, de calanque, on sent pas du tout le soleil, on sent pas la mer. Et puis, c'est vraiment écrit avec des palmes. Hein, là. Je vois pas des gamins comme ça, à moitié racaille, parce qu'on sait pas très bien ce qu'ils ont fait avant, pourquoi il faut les réinsérer, qui disent, vous êtes écrivaine, est-ce qu'on verra le défunt? Mais ça sonne tellement faux, un peu d'ailleurs comme beaucoup de répliques de 120 battements. Par minute.
Et
entre les murs était beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux joué,
bon,
beaucoup
allez,
plus
Charlotte.
Incarné.
Non, mais je regrette qu'Éric soit passé de l'un des films français les plus passionnants de l'année. Pour moi, c'est
vraiment un très
grand film. Non, vraiment, parce que c'est un film qui est politique, sans être ni didactique ni moralisateur, et il est passionnant dans le portrait qu'il dresse d'une certaine jeunesse qui accumule les frustrations et qui ne lutte même plus contre un certain déterminisme social. Et moi, je trouve le film assez fascinant. Alors, il a une construction binaire qui pourrait un peu lasser, où effectivement, on passe des séances d'écriture collective en huis clos à des respirations beaucoup plus solaires dans les calanques, et on passe du collectif à l'individuel. C'est là où, effectivement, à mon sens, c'est le seul parallèle qu'on pourrait faire avec le film de Robin Campillo qui a un peu cette structure narrative aussi, 120 battements par minute. Et au moment où on pourrait un petit peu se lasser de cette construction, tout d'un coup, le film nous embarque dans une espèce d'incursion de thriller, de film noir, pour se redéployer à la fin sur la chronique d'une émancipation. Moi, j'étais complètement bluffée, intéressée, et Marina Foïs, c'est pas qu'elle est pas mal, comme dit Eric, elle est géniale dans le film, hyper juste face à ces gamins
vous
qui improvisent.
Vous voyez du génie n'importe
la
où,
moitié...
là.
Non,
génie,
parce que
c'est un mot important,
ces jeunes
c'est un mot
enfants,
rare.
Ils improvisent la moitié des scènes, elle a de la répartie, ouais. Elle les tient, et ce jeune Mathieu Lucci, il crève l'écran, il est absolument dément.
Jean-Marc.
Moi, je serais un peu modéré.
Il n'ose pas être d'accord avec moi.
Non, vraiment,
c'est embarrassant quand même.
Tu penses pas que c'est la
vie après.
Je suis même plus près de Charlotte.
C'est l'un des plus grands films de l'année, quoi.
Non, je pense pas. Non, moi, je trouve que c'est un film intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose de scolaire dans le cinéma de Laurent Cantet. À la fois parce que c'est l'univers qui le passionne, mais c'est aussi un peu la forme de son cinéma. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'exposé dans le film. Et sa mise en scène est vraiment extrêmement sage. Au début, moi, quand même, j'ai une forme de lassitude à voir des gens parler autour d'une table et que la caméra soit toujours sur celui qui parle et que chacun parle après l'autre. C'est vraiment le contraire du chaos organisé du film de Campillo en termes de filmage. Et donc, voilà, il y a quelque chose de très low profile dans la forme que je trouve au départ pas excitant. Et en même temps, je trouve que de manière très impressionniste, le film réussit à tisser quelque chose d'assez intime avec ce personnage en cours de radicalisation. Et là, je trouve qu'il y a une forme de vérité qui touche à quelque chose de très sensible sur ce processus de radicalisation de ce personnage.
Xavier.
Bon, je suis complètement du côté de Charlotte. Je trouve que c'est un film extrêmement intéressant, enthousiasmant, qui m'a passionné. Alors, on a effectivement beaucoup dit sur la radicalisation de ce jeune héros. Moi, j'aime beaucoup les autres personnages aussi qui racontent Marseille, qui racontent ce rapport à la ville.
La Ciotat.
L'héritage aussi du monde prolétaire, les parents, les grands-parents. Les chantiers navals, absolument. Cette manière dont il est difficile, même pour cette génération, de s'extraire de la mémoire politique de cette ville. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que le polar, qui est un genre, qui n'est pas le genre sociétal par principe, mais qui peut vraiment le requérir, devient pour eux un terrain d'expérimentation. Comment jouer justement avec cette mémoire. À la fois, ils sont bloqués par la mémoire, ils sont irrités de ces choses-là. Puis dehors, derrière, demain, il n'y a pas d'avenir. Ou en tout cas, on leur promet un avenir en berne. Et je trouve que il chope vraiment quelque chose dans le scénario, mais aussi dans la mise en scène, en s'intéressant aux corps qui vont cristalliser peu à peu justement les tensions. Il dit quelque chose de très juste sur cette génération-là, qui est est coincé dans un étau entre un passé très lourd dont il faut se défaire sans l'oublier et en même temps effectivement un futur qu'il faut construire avec énormément de difficultés parce que Marseille et La Ciotat sont quand même données pour des villes mortes, pour des lieux de no man's land, en tout cas de non-avenir professionnel. Et tu parlais de déterminisme, Charlotte, c'est exactement le thème pour moi du film et c'est absolument passionnant et je ne vois pas pourquoi un gamin, enfin en tout cas selon l'idée que fait Eric Neuf, du Sud pourrait ne pas parler de défunt. Ils savent lire également, ils savent écrire et ils savent penser. Mais peut-être qu'un jour, Eric le découvrira.
Laurent,
paye-moi le billet.
Cantet, qui nous signe un film qui s'appelle L'Atelier. Oui, une réaction sur ce film dans le studio Sacha Guitry. Le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Je suis absolument de la vie Charlotte. C'est un film politique, non didactique, qui est extrêmement riche. Il faut soutenir ce film. C'est quand même les réactions de cette jeune par rapport à une société de performance et de violence. C'est par rapport à la dérision du mal-être. Ça, c'est abordé aussi. C'est un film formidable. Mais c'est effectivement, j'ai peur qu'il ne reste pas à l'affiche. Mais il faut y aller.
Merci pour votre intervention et votre enthousiasme. Alors qu'on ressort en salle et en version restaurée, s'il vous plaît, le fameux Knock de Guy Lefranc, 1951, avec Louis Jouvet dans le rôle-titre de ce médecin imaginé en 1923, ça ne nous rajeunit pas, par ton ami Jules Romain, Eric, qui fait comprendre à ses patients qu'ils sont des malades qui s'ignorent. Lorraine Lévy en donne, 65 ans après le film, sa version, comment dire, personnelle, avec... alors là, en revanche, pour ce qui est du générique, c'est peut-être le plus brillant de la soirée, Alex Lutz, Anna Girardot, Hélène Vincent, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, Sabine Azéma, Rufus, Andrea Ferréol, nos amis du français, Charlotte,
Christian Heck,
Michel Villermoz et Christian Heck, pour qui j'ai une passion. Bref, et surtout Omar Sy dans le rôle donc du docteur Knock. C'est donc un ancien voyou des années 50 qui est reconverti dans la médecine et installé pour en tirer de juteux bénéfices dans le petit village de Saint-Maurice, dont le maire est incarné par Yves Pignot et le curé par Alex Lutz. Un remake, le médecin que tu as failli être, Xavier.
Alors que tu étais nul en maths.
Hein, a dû être quand même... Tu as peut-être sauvé au moins le docteur Knock, non?
Mais et puis quoi encore? J'aime bien ton introduction, elle en livre une version personnelle. J'ai rarement vu un film où il y a aussi peu de personnalité dans la mise en scène et dans l'écriture. C'est-à-dire, je pense qu'un robot aurait écrit le film et une caméra automatique l'aurait filé, on aurait exactement le même résultat.
Ça aurait été mieux.
Ça aurait été mieux, effectivement. C'est le film pour rien. J'aurais adoré, quand je suis allé le voir, pouvoir en faire un numéro, critiquer, me moquer, mais il n'y a rien. C'est d'une platitude, c'est d'une inutilité absolue. C'est un village de Playmobil. Il y a un moment où, effectivement, quand Omar Sy arrive, le docteur Knock, il est véhiculé par le médecin dont il va prendre la place. Et le médecin lui dit, ah ben, on va vous montrer. Alors là, vous avez la poste, effectivement, c'est marqué la poste. Là, vous avez le café, c'est marqué le café. Ben, c'est exactement ça, le film. C'est-à-dire, pendant deux heures, Lorraine Lévy va nous montrer ce qu'on a déjà compris depuis très longtemps. Le cinéma est totalement inutile dans ce film. Et alors, on a effectivement arrondi les angles de manière à ce que le film soit tout public, familial. Mais ça n'a aucun intérêt. Knock, c'est quand même une œuvre beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus cynique sur le monde du mercantilisme médical et pharmaceutique. Villermoz est absolument génial en médecin et Audrey Dana, son épouse, qui veut absolument à la fois se taper Omar Sy, le médecin, et puis en même temps, elle aimerait bien que son mari acquiert enfin une certaine notabilité financière. Tout ça sont des personnages veules, sont des personnages méchants, sont des personnages manipulateurs. Là, ce sont des jolis petits Playmobil, charmants et joyeux.
On a du mal à comprendre même pourquoi Omar Sy a accepté.
Parce que c'est un rôle culte et qu'il cherche une certaine légitimité d'acteur, on va dire. Il n'est pas bon d'ailleurs parce qu'il n'est pas
non,
dirigé.
Mais personne
n'est dirigé. C'est vraiment bon. le film, mais les plans sont interminables. Il n'y a aucune justification ni des mouvements de caméra ni de la mise en scène. Elle a des moyens, mais elle n'a aucun talent.
Puis alors, revoyez, moi je l'ai revu, hein, le vrai Knock, c'est une merveille. Eric.
Ah, Omar m'a tué.
Là. Tu l'as pas déjà faite, celle-là?
Non.
T'es sûr? Bon, je vais la noter parce que là, je...
Non, parce qu'on vit une drôle d'époque. Qui est-ce qui a bien pu avoir une idée pareille? Faut imaginer que dans un bureau du 8e arrondissement ou de Neuilly, il y a un producteur qui s'est dit, on va tourner un remake.
C'est quoi, c'est Gaumont ou Pathé, ce film-là?
Oh, ça peut être les deux, on s'en fiche. Ouais. On va tourner un remake de Knock avec Omar Sy dans le rôle de Louis Jouvet. Et personne ne lui a passé la camisole. Hein. Non, non, ils l'ont fait. C'est hallucinant. C'est d'une inutilité, mais totale. En plus, ils ont changé l'époque. Ils ont mis ça dans les années 50. Pourquoi pas? Mais ils n'en font strictement rien.
Ils ont voulu faire l'époque du film. C'était 51, le film de...
Oui, mais... Et alors, parce que...
De Guy Lefranc.
Un médecin noir qui arrive dans ce petit bled, ça ne suscite aucune réaction. Ça passe comme une lettre à la poste, à part... Enfin,
pour moi, c'est vraiment ça.
C'est alors, il y a un sujet, fort, là. Il y a un
seul intérêt du film.
Je pense qu'il y a un truc théorique ultra fort dans l'idée de prendre un acteur noir pour jouer ce rôle et que les personnages autour de lui, à aucun moment, ne font mention de cette différence.
C'est une installation.
Et même disent qu'il a quelque chose de pas comme nous, mais n'arrivent pas à le nommer. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur le fait que cette communauté était rendue invisible par le cinéma français des années 50. Aujourd'hui, elle le rend possible, mais cette invisibilisation historique, elle est visible sur l'écran. C'est-à-dire que les personnages ne voient pas. C'est-à-dire que la question du racisme n'est pas traitée. Et ça, je trouve que c'est théoriquement assez fort. Après, je trouve le film vraiment très, très mauvais.
mais je pense que tu lui as attribué des ambitions qu'elle n'avait pas du tout. Hein.
Mais cette idée-là très, très forte, je trouve que finalement, elle n'en fait rien politiquement. Et je pense qu'après, il y a plein d'autres problèmes, y compris politiques. Notamment, je trouve que le film est dans sexisme, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un personnage de jeune fille montré comme objet du désir, et tous les personnages féminins plus âgés sont montrés comme des objets de raillerie, voire de dégoût. Enfin, le film, à des endroits, est politiquement extrêmement réactionnaire. Mais il y a cette idée, bon, pour la seule idée forte, c'est vraiment Omar Sy dans ce rôle.
Non, mais il est tellement terne, bizarrement, que même les fameuses répliques « Est-ce que ça vous chatouille ? Est-ce que ça vous gratouille ?» Si on n'avait pas la voix de Jouvet en tête, on s'apercevrait même pas.
Absolument.
C'est raté, c'est bête, toutes les filles se déshabillent devant lui. Il y a des petits clins d'œil, il y a à un moment donné un des personnages qui dit « Travaillez plus pour gagner plus ». Mais quelle ânerie.
Alors, c'est effectivement pour vous donner le niveau des dialogues.
Non, mais Charlotte.
Je vais pas tirer plus sur l'ambulance. Le film est absolument consternant, c'est-à-dire consternant de bêtise sur le fond et de nullité dans la forme. Il y a vraiment pas grand-chose à sauver. Et je suis même assez en colère, en fait, d'une certaine manière, qu'elle se soit permise de dénaturer à ce point les intentions de Jules Romain. C'est-à-dire que quand même, Knock, c'est un vrai méchant, c'est un escroc et qui va fructifier sur la bêtise de ces gens et le côté un peu mouton de panurge de tous ces villageois qui vont se rallier à sa cause. Et là, elle en fait un petit escroc à la petite semaine, mais tout à fait sympathique, avec un cœur gros comme ça, qui a un sourire effectivement assez ravageur, le sourire d'Omar Sy. Elle a gommé toute la méchanceté du personnage pour en faire une espèce d'une longue publicité de saucisson, de fromage frais, parce que franchement, ce village des années 50, il est filmé comme une pub, vous voyez, le goût des bonnes choses ou des valeurs simples, c'est insupportable. Elle a un casting assez dément, elle n'en fait rien, et même Christian Hecht, qui est un génie, voilà, il n'y a rien. Non, la dernière chose quand même, c'est qu'elle rajoute un personnage de curé, qui est très important dans cette version-là, puisque c'est un peu l'ennemi de Knock, celui qui va essayer d'ouvrir les yeux des villageois, curé qui n'existe pas du tout chez Jules Romain. Donc il y a en plus un espèce d'anticléricalisme assez primaire et assez...
Donc Camillo,
Allez, Knock, oui, Knock, plus, oui. C'est donc le film de Lorraine Lévy, pas de réaction j'imagine, non. Coexister, le troisième film coproduit par Luc Besson, de l'acteur humoriste Fabrice Eboué, un film œcuménique, là on peut le dire, au sens propre, où on voit un producteur aux abois, c'est donc Fabrice Eboué, assisté d'Audrey Lamy, fonder un groupe de musique composé d'un curé, d'un rabbin et d'un imam pour chanter, vous l'avez compris, l'air de la diversité. Le curé, c'est le père Benoît, Guillaume de Tonquédec, je te le raconte parce que tu ne l'as pas vu,
non.
Eric. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le rabbin Samuel, qui ne s'est jamais remis d'une circoncision ratée, c'est Jonathan Cohen, et le prétendu imam, Monsef, chanteur de rail raté, porté sur le whisky, la coke, les femmes, le saucisson. C'est Ramzi Bedia. Le film dure 1h30. C'est moins long que le Bigelow. Comment dire, c'est une machine à gag. Et donc aussi, qui dit gag, dit cliché. En ce sens, c'est pas mal foutu, mais c'est l'effet général, je trouve, assez difficile à supporter à la fin, Jean-Marc.
Oui, ben, je suis vraiment d'accord avec toi. Le film est vraiment, par rapport à Knock, beaucoup mieux fabriqué, beaucoup plus vivant, beaucoup plus contemporain, parfois assez drôle, et il pâtit de vouloir un peu jouer sur les deux tableaux tout le temps. C'est à la fois être dans la dénonciation des clichés racistes et en même temps faire rire voilà. sur leur dos. Et il est toujours entre ces deux directions, et même une direction parfois assez cruelle. Le gag final, par exemple, est extrêmement gore, on va pas le révéler. Non. Et en même temps, il y a vraiment des bons sentiments ultra démagogiques tout le temps. Je trouve ça vraiment pas antipathique et assez réussi dans ce que ça vise et pas passionnant.
Charlotte.
Bah, moi, curieusement, je trouve que ça manque un peu de mordant. C'est-à-dire que les films précédents de Fabrice Eboué, ils gratouillaient, quoi. Ils frottaient vraiment. Et là, pour le coup, je trouve que ça reste effectivement, comme dit Jean-Marc, assez attendu dans les vannes.
Alors, mais parce que sur le papier, c'est dès le début caricatural. Enfin,
oui, ça l'est. Et puis le film ne dépasse jamais son postulat. C'est-à-dire que dès le début, il y a l'idée qu'il doit remplir l'Olympia et récupérer son ex. C'est posé comme enjeu au bout de 10 minutes. Et le film n'ira jamais au-delà de ça. Donc il n'y a vraiment aucune surprise. Si ce n'est deux, trois vannes quand même assez efficaces. Mais curieusement, je trouve que le film pâtit d'une sorte de faux rythme parce que son héros principal, qui est incarné par Fabrice Eboué, donc ce producteur de musique qui essaye de monter ce groupe, il est très mélancolique, il est très triste, il a perdu sa femme, il veut la récupérer. Et en fait, il ne croit qu'à moitié qu'à ce qui lui arrive. Il est un peu mou du genou. Et je trouve que le film manque un peu de nerfs, de nervosité et se déroule lentement dans un rythme qui n'est pas habituel pour de la comédie.
Xavier.
Je suis à la fois d'accord avec vous, je vous trouve un petit peu sévère. C'est-à-dire que c'est toujours le problème des films de Fabrice Eboué. C'est-à-dire que la structure scénaristique, elle est classique, elle est initiatique, elle est un petit peu moralisatrice à la fin. Enfin, en tout cas, une
mais
bonne morale qui s'installe.
Surprise.
Mais il y a toujours quelques situations hors champ, bord 4, que je trouve plutôt intéressantes. Mmh. Audrey Lamy, moi je la trouve formidable dans le film, en secrétaire de Fabrice Eboué.
Mais ça fait sourire
mais
parfois.
Ils sont tous
mais ça fait,
bien.
Non,
mais
jamais, on est bien d'accord.
Mais jamais
ça fait
rire.
Sourire, c'est pas une grande comédie.
Rire.
Mais de temps en temps, quand elle dérape gentiment, moi, la séquence, le clip des rappeurs gays de banlieue me fait hurler de rire quand même. C'est extrêmement drôle parce que c'est... Ah ben oui, c'est le mélange d'un monde hyper viril, assez homophobe, assez misogyne, qui subitement se devient un fer de lance de la promotion
LGBT. Tous les faux clips sont assez drôles.
Ouais. Mais voilà, ça c'est assez rigolo.
Drôle aussi,
mais je dois avouer que quand ils font toutes les radios écuméniques et qu'ils se retrouvent sur la radio catholique, il y a le prêtre qui est bien embarrassé parce qu'il y a l'auditrice qui lui dit « Oh oui, les PD, il y en a ras-le-bol. » Oui, non, non, madame, mais tout le monde a le droit de vivre. Non, non, mais j'étais comme vous. Moi, l'année dernière, j'ai défilé, mariage pour tous. Et puis quoi encore? Oui, madame, bien évidemment. En même temps, c'est pas le sujet. Oui, enfin, quand même, moi, j'ai un fils qui est pédé. Comment est-ce qu'on peut le soigner et tout ça? Et là, subitement, on retrouve le mauvais esprit d'Eboué. Alors, c'est pas tout le temps là. Il faudrait
dire que ton Kédek est très bien. Non
mais ton Kédek est génial, embarrassé.
Dans cette soutane.
Hein, Ramzy, moi, me fait hurler de rire quand même. Parce que, mine de rien, le personnage est assez.
Il est chargé. Hein.
Ah, il est bien chargé. Ouais, mais pourquoi pas? Je veux dire, par les temps qui courent, justement, c'est pas un personnage qu'on arrondit, c'est pas un personnage qu'on y va. C'est un personnage qu'au contraire, on charge. Et Ramzy le charge encore plus dans une interprétation qui est assez délirante. Donc du coup,
on dirait
moins...
presque Philippe Léotard, je trouve, au début quand il chante. Vous trouvez pas?
Oui, c'est pas faux, j'y avais pas pensé, mais voilà. Donc c'est malheureusement attendu, mais avec plein de digressions qui me plaisent bien.
Coexister donc le nouveau film de Fabrice Eboué, tu iras quand même, Eric. Rapidement,
oui, tous les politiquement corrects.
Rapidement, tous les rêves du monde de Laurence Ferreira Barbosa, produit évidemment par Paulo Branco, puisqu'il s'agit du Portugal, avec Pamela Ramos dans le rôle de Pamela, donc une jeune Portugaise de la deuxième génération qui est née en France, qui a des talents de patineuse. Mais qui a du mal à trouver son équilibre entre ces deux pays. Alors le film montre, c'est l'essentiel du film, hein, le rituel du retour estival dans le village portugais où ses parents ont une maison, la difficulté aussi pour Pamela, qui est considérée là-bas comme une Française, de respecter sa famille et de prendre son indépendance. Sa copine Claudia, qui est jouée par Lola Vieira, qui est une rebelle obligée de garder les moutons près du village, parce que quand on fait des erreurs, voilà, on est contraint de garder les moutons, va être l'instrument de sa liberté. Évidemment, on sent qu'elle a beaucoup mis de sa propre histoire, Laurence Ferreira Barbosa, dans ce film, qui est à la fois modeste, je trouve, et assez juste, non, Eric?
Il y a eu Diabolomante, là, c'est Vino Verde, comme ça se passe au Portugal.
Ça n'a rien à voir. Hein.
Ah, si, c'est quand même l'éclosion d'une adolescente, cette fille-là qui a raté son bac, qui rate son permis et qui se dit « je vais quand même pas rater ma vie par-dessus le marché ». Cette demoiselle qui est quand même très ronde, un peu ingrate.
Elle est ronde, elle est ronde.
Et il y a des moments de grâce qui sont magiques quand elle fait du patin à glace. C'est des petites épiphanies.
Mais qu'est-ce que tu es en train de dire qu'elle a de la grâce parce qu'elle fait du patin alors qu'elle est ronde, c'est ça?
c'est pas la fille que tous les garçons courtisent, c'est la copine, ça.
Mais d'abord, c'est pas vrai, elle est courtisée par un très joli garçon.
Oui, mais il s'en va. Il s'en va faire des gâteaux au Japon.
Mais il est censé partir quand il la rencontre. Il a raconté les choses.
Vous me laissez parler, je dis du bien d'un film pour une fois.
Tu le dis mal, alors c'est pas la peine.
Vous m'interrompez. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Le film est très bien. Et il y a une parenthèse au Portugal pendant les vacances.
C'est pas une parenthèse, c'est l'essentiel du film.
Oui, c'est trois quarts du film. Sa vie à elle, c'est une parenthèse.
Ah oui. Ouais.
Et on voit les rituels qu'il y a, la procession du 15 août, la grand-mère, les copines, les fêtes de village. Et ça, c'est très, très bien rendu. Non, c'est un film assez réussi et modeste, comme tu dis. Et la modestie, c'est une qualité quand on voit un tas de films prétentieux qui se cassent la figure.
Et le père est très bien, d'ailleurs.
Les parents sont très incarnés aussi. Je ne supporte pas qu'on ait mis un banc en plastique vert devant sa maison pendant qu'il
n'était pas là. Charlotte ?
Ben oui, je trouve que c'est un film qui réussit un exploit assez incroyable, à savoir de nous intéresser, nous passionner par une non-héroïne à qui il arrive des non-événements.
Parce que on est touché, plus que passionné.
On est ému, effectivement, parce qu'il lui arrive pas grand-chose à cette Pamela. Mais c'est extrêmement juste, je trouve, la manière dont Laurence Ferreira-Berbosa montre cette jeune adolescente qui est dans une indécision permanente, qui aimerait que quelque chose lui arrive et qui a envie de faire, mais qui est paralysée par la peur de ne pas y arriver. Donc effectivement, elle rate son bac, elle rate son permis.
J'ai plus senti la difficulté à vivre entre ces deux cultures que c'est ça le.
Oui, mais en même temps, je trouve que alors son identité franco-portugaise n'est jamais abordée frontalement dans le film. C'est toujours en sous-couche. C'est très simple, très délicat, sensible. Maintenant, il faut quand même accepter de se laisser porter par un scénario qui ne provoque aucun événement majeur.
Absolument.
Voilà.
À part le voyage.
Quelle douceur.
À part le voyage. L'aller-retour, Xavier.
Mais moi, je trouve que c'est la force du film, aucun didactisme. C'est-à-dire que c'est à la fois le portrait d'une jeune fille de 16 ans, aujourd'hui, bien dans sa peau, malgré ses très jolies rondeurs. Elle n'est absolument pas ingrate. D'ailleurs, elle continue
par
un fort joli garçon qui va être pâtissier, qui crée même un gâteau en son hommage, qui est une jolie, très jolie scène. Puis en même temps, effectivement, elle est d'origine portugaise, française. Ça fait partie de son quotidien. Le film, d'ailleurs, débute sur une espèce de réunion de Portugais à Paris, qui est assez joyeuse avec la culture. Puis elle va retrouver cette culture qu'elle retrouve tous les étés. C'est un rituel et j'aime beaucoup la manière dont justement il n'y a aucun événement qui provoquerait le sujet et le sujet existe tout le temps, partout, dans des petits détails, dans son rapport avec son père, avec sa mère, qui sont plutôt bien décrits en plus, je trouve. La mère étant, elle va arrêter ses études, elle ne sait pas très bien si elle veut repasser le bac, sa maman pourrait l'accompagner dans cette décision-là, son papa voudrait au contraire qu'elle soit. Et c'est le quotidien, mais c'est aussi le quotidien, effectivement, d'une jeune fille qui vit avec deux cultures de manière très harmonieuse, très complémentaire, très synergique. Et c'est sa vie, c'est rugueux, parce qu'elle est comme ça, et on l'a tous été à 16 ans.
Tu as été très rugueux, toi.
Ah, moi, j'étais hyper rugueux.
Très rugueux.
Hyper, et mais longtemps. Très longtemps.
Ce que je veux dire, c'est que le vrai suspense, c'est surtout les relations avec cette copine là-bas, qui, elle, évidemment, porte un peu de l'intrigue aussi de l'histoire.
Absolument.
Les raisons pour lesquelles elle est contrainte de garder les moutons. Jean-Marc.
Oui, je suis d'accord. Le film se déroule sans conflit dramatique. C'est extrêmement ténu. Il y a vraiment une esthétique de l'aplat et en même temps, ça produit une émotion graduelle. Mais le film est assez poignant et prenant et réussit vraiment, vraiment à camper un personnage dans toute sa complexité. C'est vraiment un beau film.
Tous les rêves du monde de Laurence Ferreira-Barbosa. Et on termine, mais vraiment, vous me dites si vous conseillez ou non, à l'ouest du Jourdain, le documentaire d'Amos Gitaille, Kadosh, Kippour, etc., qui était lui à la quinzaine des réalisateurs. Là, je me suis pas trompé. Caméra à l'épaule, Gitaille s'est rendu en Cisjordanie pour rencontrer ceux qui, Israéliens et Palestiniens, veulent croire encore à la réconciliation. Il y a des moments terribles dans ce film, je trouve, notamment quand il rencontre une ministre israélienne des Affaires étrangères qui ne veut pas entendre parler d'occupation. Puis moi, il y a ce moment qui m'a bouleversé de cette femme, qui est une jeune israélienne, 32 ans, installée en Cisjordanie, qui a été poignardée par un Palestinien alors qu'elle était enceinte. Donc la scène est quand même plus que traumatisante. Et qui a un discours où on sent qu'elle veut agir pour la concorde, pour cette réconciliation, que j'ai trouvé très très fort. Film court, hein, 1h24, film très engagé, qui provoque déjà beaucoup de colère en Israël, ça je le sais. Vous le conseillez ou pas, Charlotte ?
Oui, film très engagé, important et intéressant dans le constat qu'il fait du fossé énorme qu'il y a entre les intellectuels et les personnes du gouvernement et les personnes issues de la société civile qui, elles, veulent croire encore à une réconciliation possible.
Jean-Marc l'a pas vu, Xavier.
Oui, je le conseille. Guita, c'est vraiment le cinéaste des territoires et il regarde quelques décennies après la mort de Rabin où en sont les territoires justement du conflit.
Rabin dont on entend la voix.
Dont on entend la voix. Il y a les pacifistes, il y a ceux qui veulent la réconciliation, il y a cette ministre effectivement qui est glaçante, il y a ce gamin et j'aime beaucoup la scène parce que Guita il rentre dans le cadre donc il assume la subjectivité. Un gamin qui lui dit, palestinien, qui lui dit mais moi je veux être martyr, moi je veux effectivement me faire exploser et c'est terrible parce qu'effectivement il y a déjà malheureusement une deuxième, une troisième génération et le film est absolument salutaire
et un témoignage de l'éditorialiste d'Aretz, oui. Qui a un passage terrible en disant que si ce pays ne trouve pas à se réconcilier, il va droit vers le suicide. Eric.
On voit que c'est pas gagné, on voit que c'est perdu. Hein, c'est ça qui est intéressant dans le film, qui est quand même un truc de télévision. Hein, ça passerait un soir à 10h, ce serait pas plus mal que d'aller au cinéma. Et puis on voit la détresse de ces gens. Hein, ils sont complètement perdus et ils savent bien qu'ils sont dans une impasse. Et Xavier a raison, la séquence la plus troublante, c'est ce gamin qui est radieux, ce petit gamin qui est beau, qui est radieux, qui aime la vie et qui veut se faire exploser.
Et le désarroi de Guitaï,
il ne sait plus quoi faire. Il lui dit, tu sais, on ne meurt qu'une fois, ce qui est assez fort comme réponse, mais il se rend bien compte que des gamins comme ça, doit y en avoir partout et que ça va faire
d'où l'importance de rentrer dans le cadre à ce moment-là. Ouais, c'est déterminant.
Avec une juste dernière lueur d'espoir à la fin,
oui, avec
qui
le
considère que quand même la culture est peut-être une passerelle possible pour le dialogue.
C'est à l'ouest du Jourdain et c'est signé Amos Guitaï. Allez, un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Jean-Marc.
Alors c'est un conseil qui n'est pas lié à l'actualité des sorties, mais à une actualité plus triste, qui est la disparition cette semaine d'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma, qui est Danielle Darrieux. Et voilà, mon conseil, ça serait de dire à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu de découvrir Madame 2, parce que c'est vraiment pour moi un des plus beaux films au monde, et que ce qu'elle y fait est vraiment exceptionnel. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, même si vous l'avez vu, retournez vers Madame 2.
Et moi j'y ajoute même Le Rouge et le Noir avec Gérard Philippe. Et
le plaisir, enfin, elle a fait beaucoup de très grands films.
Absolument.
Et Madame Dame dans Les Demoiselles de Rochefort, s'il vous plaît.
Charlotte.
Eh bien, après cette replongée dans la filmographie effectivement riche de Danielle Darrieux, moi je vous conseille de mettre un disque. Je voudrais conseiller.
Un disque ?
Oui, un disque. C'est le
un
disque.
Un 78 tours ou un 33 ?
Un CD, vous savez, c'est moderne, d'un duo électro qui s'appelle Kabadzi et qui a eu cette idée un peu farfelue d'écrire un album de chansons électro-hip-hop uniquement à partir des répliques des films de Bertrand Blier. Et donc, Tenue de soirée, Les valseuses, Buffet froid ou Trop belle pour toi, on se souvient de dialogues ou de monologues incroyables. Et bien là, ils sont mis en musique, en chanson. Ça pulse, c'est une poésie effectivement assez triviale. Ça parle beaucoup de sexe et d'amour. Ça file une patate d'enfer. C'est Kabadzi meets Blier.
Mon conseil, L'Assemblée, un documentaire de Mariana Otero sur Nuit Debout. Elle a filmé depuis le début, depuis le 32 mars 2016, le mouvement insurrectionnel de la place de la République. Elle montre moins ce qu'il voulait dire que la manière dont il s'est constitué en commission, en assemblée, comment on a organisé la parole collective, comment les actions hors la place ont été planifiées, et puis aussi comment le mouvement a commencé à s'étioler à partir du mois de mai. J'ai trouvé ça très, très intéressant, très original aussi. Et c'est donc L'Assemblée de Mariana Otero. Le conseil d'Éric.
Jean-Pierre Melville aurait eu 100 ans il y a 2 jours, et pour fêter ça, il faut lire le...
L'âge qu'avait Danielle Darrieux.
Ouais, quand elle le livre d'Antoine de Beck qui lui est consacré, qui s'appelle Jean-Pierre Melville, Une vie. C'est un album très richement illustré, avec beaucoup de détails, des extraits de critiques, des affiches de l'époque. Antoine de Beck connaît très bien son affaire, et on attend qu'il écrive sur lui une biographie aussi fouillée que celle qu'il avait faite avec Toubiana sur Truffaut, parce que, bizarrement, Melville est un des cinéastes les plus connus, les plus respectés à l'étranger et aussi en France. Il n'y a pratiquement aucun livre sur lui, à part des entretiens avec Rui Nuguera et un petit livre sur le samouraï, et il faut réparer ce scandale.
Xavier.
Avec un très bon dernier chapitre sur les héritiers de Melville en Asie ou en France ou aux États-Unis. Moi, je vais recommander toujours un film de femme, puisqu'on avait eu beaucoup ce soir, et c'est tant mieux. Numéro 1 de Toni Marshall, L'ascension d'une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 soutenue par d'autres femmes. Et dans le rôle principal, Emmanuelle De Vos, c'est dans un rôle hélas secondaire, mais elle est irradiante de beauté, Francine Berger, toujours aussi extraordinaire comédienne. Et c'est un vrai film intelligent et intéressant sur la vraie place laissée aux femmes, même si elles la conquièrent, dans l'univers des grandes entreprises.
Et on aime beaucoup Emmanuelle De Vos. Tous ces conseils, vous les... Pardon ?
On l'adore.
Ah, on l'adore. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter.fr. Merci beaucoup, Charlotte Lipinska, Jean-Marc Lalanne, Xavier Le Herpeur et Éric Neuhoff pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec La collaboration de Lisiane, c'est là, mais ce soir, au Sacha Guitry, à la technique, Bruno Mourlan, Pierre-Henri et Stéphane Touvenin. La réalisation était de David de Jacubovies. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 2 novembre. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une qui sera consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. On parle de livres dans une semaine et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.